Ça va très bien. Et l'année 1981, d'après Edgar Cayce, c'est une année de révélation de beaucoup de phénomènes ésotériques. Triangle des Bermudes, l'Atlantide.
Ouais. Peux-tu faire un petit commentaire? On commence une nouvelle année. Puis, à chaque année, il faut apprendre quelque chose de neuf. Et à un certain moment, il faut arrêter de niaiser. Parce que si on niaise trop, on perd notre temps. Fait que, ce que je souhaite pour l'année qui vient, c'est qu'on arrête de niaiser. Moi, je niaise pas. Fait que s'il y en a qui niaisent, déniaisez-vous pour demander des questions qui sont pas niaiseuses pour qu'on puisse avancer. On a beaucoup de choses à savoir, on a beaucoup de choses à apprendre, on a beaucoup de choses à être transmises. Puis, il est temps qu'on les comprenne, qu'on reçoive l'information. Mais ça dépend toujours de nous autres. Moi, je suis toujours disponible pour vous répondre à vos questions. Mais le rythme d'avancement dans les réponses est toujours proportionnel à la qualité de l'esprit qui questionne. Alors, on commence.
Comme c'est moi qui ai toujours posé des questions en 1980, je vais essayer d'être moins niais.
j'ai rien dit.
Et la voix suffit d'entendre. Alors, Bernard, la question de base au départ ce soir, ce serait savoir, nous, les êtres humains, on cherche toujours. On cherche, on se pose des questions, on trouve des réponses, ou on pense trouver des réponses, mais ces réponses-là nous amènent à nous poser encore d'autres questions, et toujours comme ça. Alors, est-ce que, je ne vais pas entendre toute la théorie du supramental, je sais bien que par le supramental, quand on sait, on sait. Mais tant qu'on n'est pas branché au supramental, là, le monde comme tout le monde, est-ce que il y a quelque chose de fructifiant, on dit qu'on juge l'arbre d'après ses fruits. Est-ce que de toujours se poser des questions pour en arriver à des réponses qui nous amènent encore à d'autres questions, est-ce que ça risque pas un jour ou l'autre de nous amener à se rendre compte qu'on tourne en rond?
Bon. D'abord, le phénomène de se demander des questions, le phénomène des questions qui n'arrête pas, ça fait partie du phénomène humain. Ça fait partie de l'intellect humain, ça fait partie de la raison. Puis, l'homme de l'avenir, l'homme de la sixième race, la nouvelle race d'homme qui doit naître sur la planète, sera un autre stage d'évolution. C'est-à-dire que cette race-là ne fonctionnera plus mentalement comme a fonctionné la race antérieure. Autrement dit, la sixième race et la cinquième race, ou la cinquième race qui a donné naissance au phénomène de la pensée, la race aryenne au début, race totalement différente.
Là, Bernard, une chose, il y a beaucoup de personnes nouvelles ici qui n'ont peut-être pas la base dans l'ésotérisme, qui leur dit qu'actuellement nous sommes la cinquième race. Et la sixième race sera celle qui arrivera peut-être.
Oui, on n'a pas besoin d'avoir une base dans l'ésotérisme. Si on parle d'une autre race, à ce moment-là, on parle d'une autre race. On parle d'un nouvel air. Qu'on dise la cinquième ou la sixième, c'est sans importance. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a un nouvel homme sur la planète qui est en train de naître. Et ce nouvel homme-là va automatiquement, comme dans toutes les races antérieures, va être automatiquement obligé de perdre certaines facultés pour en gagner et en découvrir d'autres. Alors, la base de la faculté de l'intelligence humaine, du rationalisme, de l'intelligence intellectuel de l'homme est assise sur un mécanisme qu'on connaît très bien, qui est le mécanisme de la mémoire subjective. La mémoire, c'est une réserve qui permet à l'ego, au plan mental de l'ego, de se servir constamment de ce qu'il a appris. Et à l'intérieur de cette soupe-là, l'ego, constamment, cherche à approfondir la nature de ce qu'il a appris. Et automatiquement, il tourne en rond parce que il part toujours d'un principe qui est subjectif pour arriver à un autre principe qui est subjectif. Dans le cas de la sixième race de l'homme, comme l'homme perdra la faculté de la mémoire graduellement ou instantanément suivant le contact avec les forces de l'invisible, comme l'homme perdra la faculté de la mémoire, il n'aura plus besoin de la faculté de penser. parce que la mémoire et la pensée avancent. Et ce qui demeurera pour l'homme, ce sera une communication intégrale, absolue, avec des plans de la réalité qu'il pourra voir, parce que l'homme aura la capacité de voir dans ces plans-là, comme il a la capacité de voir avec ses yeux matériels, dans le plan matériel. Ce que l'homme ne comprend pas aujourd'hui, c'est que il ne se voit pas dans une situation où il doit perdre quelque chose pour gagner d'autres choses. Et si vous regardez le phénomène de l'évolution, même au niveau biologique, dans l'histoire de l'évolution biologique, à un certain moment, il y a une perte d'une faculté pour un agrandissement sur un autre plan d'évolution. C'est essentiel. Sans ça, il n'y a pas de mouvement vertical. Alors, pour que l'homme subisse l'ascension psychologique de son intelligence vers un plan d'intelligence qu'on appelle supramental ou supérieur ou préhumain, il est obligé de perdre la faculté psychologique humaine de la pensée et de la mémoire pour accéder à une intelligence qui n'est plus personnelle, qui est objective, qui est communicante et qui est universelle. Et à ce moment-là, l'homme, ayant perdu la faculté du rationalisme infini, de la question infinie et de la réponse infinie, parce qu'il ne peut plus penser question-réponse, parce qu'il n'a plus mémoire pour alimenter le phénomène question-réponse, à ce moment-là, l'homme est dans un état d'intelligence totalement neutre. C'est-à-dire que son ego, au niveau astral de sa conscience, n'est plus impliqué dans le phénomène humain de rechercher la vérité, parce que la vérité, telle qu'elle est conçue par l'ego pensant, telle qu'elle est transformée, métamorphosée au cours des siècles par la mémoire de l'ego pensant individuel ou collectif, cet homme-là, à partir de ce moment-là, n'a plus de questions à demander. Parce que le phénomène de la question a été totalement brimé par la perte du pouvoir naturel de la cinquième race, qui est le pouvoir de la pensée, qui est un grand pouvoir, parce que c'est un pouvoir qui a permis à l'homme de se libérer des forces astrales de l'Atlantide, mais qui est un pouvoir au cours de la sixième race, qui ne sera plus nécessaire parce que, d'abord, l'homme pourra voir dans l'invisible. Pouvant voir dans l'invisible, il comprendra automatiquement les structures invisibles de la réalité qui affectent la matière à tous les niveaux. Pouvant voir dans l'invisible, il pourra se servir de l'énergie de l'âme pour transmuter la matière. Tout sera dans l'instantané. De sorte que lorsque l'homme aura accès à l'invisible, il fonctionnera psychiquement d'une façon instantanée. Et lorsqu'on fonctionne d'une façon instantanée, le mécanisme d'addition ou de soustraction d'une valeur psychologique pensante n'est plus nécessaire parce que l'homme a perdu la faculté. Ce que l'homme doit comprendre, c'est que pour avoir accès à quelque chose d'autre, on doit perdre quelque chose d'ancien. Et ça, c'est l'histoire de l'homme. Les gens, aujourd'hui, dans tous les pays du monde, cherchent, lisent, se questionnent, se donnent des réponses, mais toujours à l'intérieur d'un cercle qui est fermé et qui est celui de leur propre subjectivité. À un certain moment de cette prise de conscience, à la fois sociale, et à la fois individuel, l'individu doit percer un voile. Et lorsqu'il perce le voile, à ce moment-là, il réalise que la faculté de penser, qui est une faculté qui a été donnée à la race aryenne pour l'évolution du mental humain, est remplacée par une faculté autre de penser, mais qui n'appartient plus à l'individu pensant, mais qui appartient aux forces de la lumière pénétrant l'ego de cet individu et qui soumettent cet individu-là à des lois d'harmonie et d'universalité pour une évolution où tous les cadres de l'évolution, quel que soit le nombre d'individus ou quel que soit le nombre ou l'agencement des planètes ou des systèmes, pour que ces systèmes et toute cette quantité d'énergie unitaire puissent fonctionner en harmonie. L'homme ne peut pas fonctionner en harmonie s'il pense, parce que s'il pense, il croit qu'il a découvert quelque chose. Et effectivement, il peut avoir découvert quelque chose. Mais ce quelque chose qu'il a découvert par le phénomène de la pensée est toujours mesuré à la lumière de sa conscience astrale et automatiquement est toujours limité par le facteur temps. Comme cette connaissance est limitée par le facteur temps, il s'aperçoit dans 10 ans ou dans 15 ans qu'un autre bonhomme dans un autre pays a découvert aussi quelque chose qui est dans la même veine ou parallèle et qui peut être totalement opposé à ce qu'il a découvert et qui fait partie d'une trilogie de phénomènes matériels dont lui, le premier, au début, pensait ou croyait comme étant absolu, et l'autre, ensuite, croyait comme étant absolu. Vous avez le phénomène de la lumière, des particules et du mouvement ondulatoire de la lumière, c'est un exemple. Alors, l'homme, à un certain moment, doit se libérer totalement de la faculté pensante, autrement dit, du dualisme intégral de cette faculté ou de cette intelligence, pour en arriver à reconnaître la nature de la réalité sur tous les plans, à partir d'une intelligence qui n'est pas humaine, mais qui fait partie de l'homme. Ce que les philosophies appellent le grand soi ou le grand moi. Mais cette intelligence doit être perçue d'une façon intégrale, d'une façon totalement non systématique, d'une façon totalement psychique, vibratoire, et totalement au niveau de la volonté, de l'amour et de l'intelligence dont elle fait partie dans l'universel. Pour que l'homme réalise à un certain moment dans sa vie que sa faculté de pensée qu'il avait avant a été transformée dans une autre faculté de saisissement de la volonté de l'esprit, de transformer et d'amener sur le plan matériel de l'information pour l'évolution d'une science quelconque. Mais l'ego de l'homme est tellement empoisonné par des formes de toutes sortes qui relèvent d'une culture qui date de très longtemps la situation présente, que l'homme, par son ego, par lui-même, est incapable de saisir la réalité objective du supramental ou de l'intelligence universelle, comme vous voulez l'appeler, ou de l'intelligence cosmique, ou des intelligences qui veillent à l'évolution et qui sont totalement en dehors de la personnalité humaine, mais qui font partie du cadre humain, parce qu'ils agissent sur des plans qui sont atomiques et qui leur permettent de rentrer dans l'homme par le biais de sa chimie ou de son électricité. Mais pour l'homme, pour l'ego qui pense, arriver à ces dimensions de réalisation est impossible, puisque le phénomène de pensée est un phénomène planétaire et non un phénomène cosmique. Mais l'homme devait passer par le phénomène de pensée. L'avenir ne passera plus par le phénomène de pensée, il sera assujetti à une pensée qui vient d'autres mondes, mais avec laquelle il est en harmonie totale, de sorte que son ego ne souffrira plus l'espèce de domination qu'il sent originalement dans la confrontation avec cette lumière, mais sera totalement harmonisé avec elle, il pourra facilement vivre, subir, profiter de la volonté, de l'amour et de l'intelligence dans cette énergie-là. Mais l'ego, le phénomène de pensée, c'est un phénomène qui rassasie l'ego. Et l'ego cherche à se situer dans le monde. Il essaie de comprendre les lois matérielles. Il a un certain succès. Mais dès qu'il tombe dans les lois de l'immatériel, dans les lois de l'invisible, qui affectent, qui sous-tendent, qui créent les bases de l'évolution matérielle, il est totalement perdu et automatiquement il est forcé de tourner en rond et de chercher un peu partout dans le monde des réponses qu'il a en lui-même et qu'il pourrait par lui-même découvrir s'il savait comment. Mais il ne sait pas comment parce qu'il s'y prend mal. On pense mal. On pense à l'envers. On pense croche. On ne sait pas comment penser. Et l'homme de la sixième race devra réapprendre à penser, afin d'en arriver un jour à réaliser le phénomène absolu de l'homme supramental qui ne pense pas. Et à ce moment-là, lorsque vous ne pensez pas,
Voilà, Bernard, il y a peut-être beaucoup de personnes qui suivent des techniques de méditation où justement on nous amène à ne pas penser. J'allais pas dire à faire le vide ou le néant, mais plutôt à laisser pénétrer en soi tout, l'intelligence cosmique. Qu'est-ce que Bernard aurait à dire sur les méditations, les différentes techniques de méditation?
La méditation est une technique qui amène l'homme à redoubler de vigueur dans la prise de conscience astrale qui le fouette. Alors, avec la méditation, l'homme tend à rassasier, à dominer, à ralentir les pulsations du corps astral afin de pouvoir sentir un petit peu plus les vibrations du corps mental supérieur. Alors, la méditation est une bonne technique, est une bonne formule pour aider l'homme dans cette direction-là. Mais la méditation n'est pas une forme d'instruction pour l'humanité. Elle est une méthode de relaxation pour l'esprit de l'homme. Et à un certain moment, l'homme a besoin d'une instruction précise et correcte et inaberrante du phénomène de la pensée. On doit repenser ce que veut dire penser. Et tant que l'homme n'aura pas repensé ce que veut dire penser, tant que l'homme n'aura pas été capable de demander des questions impossibles et de se donner des réponses impossibles, il ne pourra pas voir la dualité entre son ego et les intelligences qui sont sur les autres plans et avec lesquelles ils évoquent, à l'insu de sa conscience mortelle, des rapports constants depuis le début de son évolution. Alors, l'homme doit recommencer à comprendre ce que veut dire penser. Et ça, c'est la clé qui l'amène éventuellement à comprendre par vibration, par une plus grande et une plus grande affection des rapports entre l'universel et lui-même, du phénomène, ou du nous-même, si vous voulez, ou de la phénoménologie de l'absence totale de l'ego pensant. Et à ce moment-là, l'homme réalise que des questions, il n'en a plus besoin, que les réponses ne sont plus nécessaires, parce qu'il est plongé automatiquement au niveau de son corps mental qui se développe dans une lumière qui est totalement extra-humaine et qui surplombe le plan évolutif de l'individu ou de la société collective.
Bernard a déjà donné l'image que nous sommes un peu comme un radio à travers lequel passent les ondes et on peut jouer avec le tuner, là, le syntonisateur. Mais que, malgré tout, les ondes viennent d'ailleurs. Mais est-ce qu'un jour, Bernard, ou est-ce que très prochainement, la science ne nous apprendra pas à jouer dans la radio, et j'entends par là, des techniques biologiques pour créer cette sixième race, comme aurait d'ailleurs voulu le faire...
Ce n'est pas la science qui va créer la sixième race, c'est la lumière. La sixième race est le produit direct d'une intervention précise de hautes vibrations provenant du fond de la galaxie, pour altérer les neurones de l'homme et amener l'homme à comprendre des dimensions invisibles de l'existence autre que l'espace-temps.
Et il n'y a aucune technique qui peut nous approcher à ça?
Technique scientifique moderne, la technique d'aujourd'hui, est une technique qui est le résultat, qui a enfanté la prise de conscience pensante de l'homme. C'est la science d'aujourd'hui est le résultat de la faculté pensante de l'homme. La science de demain ne sera aucunement reliée à la faculté pensante de l'homme. La science de demain sera directement liée à la pénétration de l'esprit de l'homme dans la matière, même dans l'atome, pour faire exploser dans cette matière-là les puissances qui existent et qui seront déterminées dans leur évolution par la volonté de l'homme en relation avec son âme, en relation avec son esprit et en relation avec les accords des supérieurs. L'homme sera totalement autonome demain. L'homme sera un scientifique parfait. L'homme saura parfaitement, instantanément, tout ce qu'il a à savoir.
Mais l'homme, à ce niveau-là, pourra-t-il encore se distinguer des autres hommes?
L'homme sera totalement distinct des autres hommes, mais il n'aura pas encore la puissance, la capacité d'atteindre l'éternelle sagesse, qui est un domaine de l'homme de la septième race, de l'homme-esprit.
On trouve beaucoup de qualités et de qualificatifs pour la sixième race. Comment Bernard pourrait nous dépeindre, nous autres, les gens de la sixième race, mais sur le côté positif?
Les gens de la sixième race se découvriront dans un cadre d'expérience qui n'est pas celui que l'on connaît aujourd'hui. Les gens de la sixième race, lorsque l'on parle ou lorsque l'on dit à une personne qu'il fait partie de la sixième race, nous disons ça parce que sur le plan de la vision de l'avenir, nous voyons cet homme ou cette femme dans la sixième race ou appartenant à ces rangs de la sixième race. Mais l'expérience psychologique de l'ego de cet homme ou de cette femme ne sera pas en relation avec les dimensions astrales qu'il possède aujourd'hui pour apprécier ou se donner une valeur en tant que membre de cette race. Parce que la sixième race est une race qui évoluera dans des cadres totalement fermés. Parce que la sixième race aura déjà le pouvoir sur la matière et automatiquement pourra se établir un rapport permanent avec l'invisible et pourra aussi se séparer totalement des restants de la cinquième.
Mais quels seraient les qualificatifs pour les gens de la cinquième race? Quelles sont les qualités de ces gens de la cinquième race?
Les qualités des gens de la cinquième race, ils sont aussi innombrables que les gens de la cinquième race. Moi, les qualités des gens de la cinquième race, ça ne m'intéresse pas parce que la psychologie qui doit s'appliquer au niveau de l'homme, c'est une psychologie qui s'applique en relation avec les gens de la sixième race. Alors, les gens de la cinquième race sont les restants d'une évolution. Alors, dans quelques pays que ce soit en Afrique ou que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en Europe, les gens de la cinquième race devront éventuellement continuer leur évolution pour, un jour, sur un plan ou un autre, en arriver à une prise de conscience qui leur permettra de se réincarner, s'ils le veulent, dans les rangs de la sixième race. C'est la sixième race qui m'intéresse, ce n'est plus la cinquième.
Mais pour nous qui sommes encore dans la cinquième, on aimerait peut-être découvrir sur quoi on peut continuer à construire.
Ceux qui font partie de la cinquième parce qu'ils sont dans une matérialité de ce rang sont quand même dans l'avenir de leur propre individualité des membres de la sixième race. Sans ça, il n'y aurait aucun, ce serait une perte de temps, une perte d'énergie d'avoir des rapports avec des gens qui ne font pas partie éventuellement d'un continuum évolutif qui permet à l'homme de rentrer en contact avec l'invisible.
D'accord avec l'étape actuelle de notre rencontre, en me disant, j'ai une vieille automobile, mais je sais que j'aurai une meilleure automobile dans 2 ans. Lorsqu'elle arrivera, j'aurai une bonne automobile qui pourra fonctionner avec beaucoup moins de pollution, etc. Mais actuellement, j'ai une automobile et j'aimerais qu'on me dise, dans l'auto que tu as actuellement, tu as quand même des avantages.
Oui.
Ça serait intéressant de pouvoir continuer à s'en servir avec agrément et bon, en se disant, l'humanité n'est pas...
Votre question est très intelligente. D'ailleurs, votre question est très à point parce que il y a toujours le phénomène de l'ego. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle ce n'est pas bon de donner à l'homme trop d'informations concernant l'avenir. Votre question est intelligente parce qu'elle nous permet de faire un point qui met l'homme d'aujourd'hui, l'homme de la cinquième race, si vous voulez, ou de la cinquième sous-race, en garde contre une prise de conscience spirituelle, une prise de conscience psychologique, ou une prise de conscience euphorique, ou une prise de conscience futuristique de la sixième race. Ceux qui font partie de la sixième race automatiquement entreront dans les rangs de cette race. Et aujourd'hui, dans le cadre de leur expérience matérielle, ils doivent vivre leur vie de façon à ce que leur vie devienne de plus en plus en harmonie avec eux-mêmes. Et c'est ça le rôle, si vous voulez, de l'homme de la cinquième race qui fait partie de cette transition, qui un jour fera partie de la sixième race, parce qu'il aura des qualités vibratoires autres. Mais aujourd'hui, l'homme de la sixième race ne doit pas rêver à la... L'homme de la cinquième race ne doit pas rêver à la sixième race. Il doit s'occuper de ses activités de chaque jour, il doit s'occuper de sa job, de sa femme, de ses enfants, il doit s'occuper de vivre comme s'il n'avait jamais entendu parler de la sixième race. Et s'il apprend, pour une raison ou une autre, comment vivre sa vie de la cinquième race, automatiquement, il fera partie des membres ou des rangs de la sixième, parce qu'il y aura eu une évolution qui lui permettra éventuellement l'ouverture des centres d'énergie. Mais par contre, un homme de la cinquième race qui s'intéresse trop à l'avenir, qui s'intéresse trop à faire ce bon dans 20 ans, 30 ans, va perdre son temps et va diminuer ses possibilités de pénétration dans la sixième parce qu'il fermera des portes d'expérience aujourd'hui qui sont essentielles et nécessaires afin que plus tard, il puisse pénétrer dans l'autre champ d'activité.
Alors, c'est à ce propos-là que je demandais à Bernard tantôt, mais quelles seraient les techniques, quelles seraient les façons de vivre, nous? Dans le panier, c'est pas tout des oranges pourries.
Ce ne sont pas des oranges pourries, ce sont des oranges inconscientes. Il y a sur la terre énormément d'oranges, et toutes les oranges sont inconscientes. Des oranges pourries n'existent pas dans l'homme. Et ce sont les oranges inconscientes qui, petit à petit, commencent à s'éveiller à la conscience. Et lorsque le temps est venu, parce que tout est déjà prédisposé, lorsque le temps est venu, ces oranges, si ça fait partie de leur plan de vie, arrivent automatiquement en contact avec un niveau de conscience, des événements, des expériences qui les amènent un jour à dépasser le stage de l'orange pour devenir quelque chose d'autre, mais certainement pas des tangerines.
Oui, c'est comme disait madame, et c'est à cause de l'évolution. Ça va être donc
ça fait partie de l'évolution.
Un phénomène naturel.
C'est un phénomène extrêmement naturel.
Parce que s'apitoyer sur notre race en se disant bientôt on arrivera à une
Non, ça c'est jouer aux échecs avec soi-même.
Sur le plan émotionnel.
Dès que l'homme se découvre en lui, il ouvre des centres d'énergie et automatiquement ça se fait. Si l'homme se découvre pas, c'est ses affaires. La vie continue, sa vie continue. S'il doit mourir, il meurt, c'est tout. Il continue à évoluer. Et il ne faut pas faire de la rhétorique avec ça. Mais il y a des gens qui sentent, qui cherchent, qui s'ouvrent, qui grandissent en conscience, qui deviennent plus centrés, de plus en plus centriques. Et ce sont ces gens-là qui, un jour, éventuellement, pourront sentir cette vibration et pouvoir la subir sans capoter. Parce que la pénétration de ces forces dans l'homme, et il ne s'agit pas de me rencontrer pour faire cette expérience. Il y a des gens dans tous les pays du monde. Moi, ça donne que je suis ici. Ça va. Il faut quand même être quelque part à un certain moment. Mais il y a des gens dans le monde qui font l'expérience de cette pénétration d'énergie et qui sont capables par eux-mêmes de transmuter cette énergie à l'homme, de l'information qui peut lui servir. C'est la seule faculté qui est vraisemblable concernant le rapport entre l'invisible et l'homme. On ne peut pas demander à toute une population d'être comme ça. Il y a des hommes sur la planète qui ont cette faculté de percevoir précisément, de dialoguer, de communiquer précisément, sans se faire leurrer par eux autres, que l'homme, à cause de son ego et de ses émotions, lorsqu'il entre en contact avec ses intelligences, il les prend pour du cash, et c'est là qu'on se fait casser le nez. Alors, il y a des gens qui ne les prennent pas pour du cash. Et ces gens qui ne les prennent pas pour du cash et qui connaissent les lois de l'invisible peuvent à ce moment-là donner de l'information à un individu ou à deux individus, de l'information qui est précise, qui est fonctionnelle et que l'individu par lui-même éventuellement peut réaliser au cours de son expérience. Elle est là la valeur de cette instruction-là. Mais à part ça, l'homme peut très bien par lui-même avancer tous les degrés de l'évolution sans passer par aucune forme d'instruction extérieure à lui-même. Mais si on a un coup de pouce, tant mieux. Mais si on n'en a pas, ça ne change rien. Et si on doit le rencontrer, le pouce, on le rencontre. Je concède que l'homme pense et que l'homme a le droit de penser, que c'est beau de penser, c'est le fun de penser, tout ça là. Que l'homme pense qu'il a le libre arbitre, toujours. Ceux qui seront en relation vibratoire avec ses forces réaliseront que le libre arbitre est une dimension vibratoire du réel dans l'homme et qui permet à l'homme de le vivre suivant le rapport étroit ou absolu qu'il a avec ses intelligences. Plus le rapport avec ses intelligences est grand, plus le libre arbitre est petit, plus la fusion est grande. Moins le rapport est grand, moins la fusion est grande, plus le libre arbitre est grand. Mais lorsque l'homme voit dans l'invisible, il s'aperçoit que le libre arbitre est une fraise qu'on lui a appliquée au cerveau pour le mettre dans un état de relaxation pendant qu'il pensait depuis 10 ans. Il y a des étapes. L'ego qui est conditionné à penser, l'ego qui est conditionné à avoir un libre arbitre, l'ego qui est conditionné à tout ce que l'on est aujourd'hui en tant qu'homme moderne de la cinquième sous-race. Un jour, ça pète. Et quand ça pète, qu'est-ce qu'on fait? On s'inquiète. On cherche. On veut un coup de pouce. Je vous donne un coup de pouce. Prenez-le, prenez-le pas.
Faire des conférences, trouver des gens en Amérique du Sud ou en France qui ont eu ce déclic et qui donnent des conférences ou qui organisent des gens pour continuer à leur donner le coup de pouce, c'est une façon d'être lorsqu'on n'est pas nombreux. Mais lorsque toute l'humanité en sera rendue là, est-ce que toute l'humanité va se rencontrer pour se donner des conférences?
Non, non.
Alors, ce que je veux dire, c'est comment vivre lorsqu'on a cette prise de conscience?
Lorsqu'on a cette prise de conscience-là, on vit sa vie, puis éventuellement, on apprend avec le temps à connaître le... Parce que l'homme ne sait pas qu'est-ce que c'est la vie. On ne vit pas. L'homme ne vit pas, il existe.
Il se paye une vie.
Il se paye une vie, c'est comme il se paye une femme. L'homme ne vit pas une vie. L'homme ne sait pas qu'est-ce que c'est la vie. Pour connaître qu'est-ce que c'est la vie, il faut connaître les lois vibratoires de la vie. Il faut connaître les lois de ses forces qui engendrent la vie, qui crée les événements dans la vie, qui vous enlève un enfant tout d'un coup dans un accident. Il faut connaître les lois. Il faut connaître comment ça fonctionne l'univers pour comprendre la vie. Sans ça, on ne connaît pas la vie. On la subit, la vie. Et on fait de la philosophie, on tricote autour de la vie. Et on y croit. On lit des romans d'eau de rose. Mais l'homme ne vit pas la vie. Alors, vous avez dans le monde, au cours de l'histoire, des hommes qui disent « Ah, la vie, c'est facile. » Les mystiques, ils disent « La vie, c'est facile. » Je comprends, la vie, c'est facile. Pour eux, pas que travailler sur la Sainte-Catherine, un restaurant grec, c'est pas si facile que ça. Mais le type qui travaille sur la rue Sainte-Catherine peut en arriver à comprendre la vie comme le gars qui est sa montagne là-bas au Tibet. Il a dit qu'on a fait de ces êtres-là, de ces sœurs, on a fait de ces êtres-là des idoles, des points qui ne sont pas atteignables. Et c'est là l'illusion de notre pensée. On a fait de la philosophie avec la mystique de la sagesse. Pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, on cherche, puis on cherche. Et un jour, on s'aperçoit, lorsqu'on a vécu cette vibration, ce contact, que c'est une illusion, c'est ça l'illusion. Et après ça, on cherche plus. Et ça, mais au lieu d'être au Tibet, on est à Montréal.
Et ça, c'est individuel. Alors que dire des couples mariés qui vivent depuis 20 ans ensemble et qui, un des deux, a le contact, il perd l'autre, ou l'autre le perd.
Un des deux a le contact.
Un des deux dans le couple marié.
Ça dépend de leur plan de vie. S'ils veulent contacter un individu, d'ailleurs, souvent, c'est ce qu'ils font. Ils vont contacter un individu et ensuite, l'autre individu qui n'est pas contacté, qui n'a pas cette prise de conscience, va servir à l'évolution de l'autre. Parce que contacter ou pas contacter, le point n'est pas là. C'est la conscience. Alors, souvent, ils vont sensibiliser un individu et ensuite, l'autre va servir à lui casser les pieds parce qu'il ne comprend pas exactement ce que l'autre veut dire. Alors, ils se servent des deux personnalités pour l'évolution, et un jour, ils peuvent facilement contacter l'autre. Moi, je connais des gens où une personne a été contactée, l'autre personne n'a pas été contactée, et plus tard, ils les ont amenés ensemble. Ça dépend du plan de vie de chacun. Il y a des couples où les deux personnes sont contactées, il y en a d'autres où il n'y a aucun contacté, il y en a d'autres où il y en a un contacté. Ça dépend de la situation.
Comment Bernard voit la chose lorsque, puis j'entends ça beaucoup de personnes qui disent « Ah oui, mais ma femme, elle ne suit pas, elle ne s'intéresse pas à ces choses-là, elle ne comprend rien là-dedans, ou c'est le mari. »
La femme ne comprend rien, ou si un des partis ne comprend rien, c'est pas l'affaire de l'autre. Nous autres, on se parle bien, on s'entretient bien, puis on n'a pas la même vision des choses, pourtant on se parle bien, pourquoi? Parce qu'on se respecte l'un l'autre, mais les couples... Ce qui arrive dans ce phénomène fébrile que je déteste d'ailleurs au début, parce qu'au début c'est comme l'eau n'est pas claire. L'ego est mélangé, les émotions sont mélangées, l'orgueil spirituel, il y en a un qui se prend pour un autre, ils sont contactés, ils se prennent pour des autres. Les gens qui sont contactés, je préfère les gens qui ne sont pas contactés tout de suite parce que souvent ils ne font pas d'overtime eux autres, ils sont bien calmes au port. Mais aussitôt qu'ils sont contactés, là ils se prennent, là, tu sais, comprendre, et... c'est ça. Fait que le gars, il arrive dans sa famille, là, sa femme n'est pas contactée, lui est contacté, lui est supérieur, là, tout à coup. Il n'est pas supérieur à tout, il pense qu'il est supérieur. Ils peuvent prendre 4 ans, 5 ans pour les amener. Hein. Ça fait partie de l'évolution, ça fait partie du travail qu'ils vont faire avec les deux personnalités.
Tu dis 4-5 ans, mais vivre 4-5 ans sans se comprendre.
Non, je vais donner un exemple comme ça, en passant. Le problème de l'homme, c'est que...
Je vais vous dire une chose.
Moi, j'ai commencé naturellement à parler de ces choses-là et être dans cette chose-là après le contact. Avant ça, ces choses-là ne m'intéressaient pas. Mais depuis que j'ai compris ces choses-là,
je me suis aperçu que l'homme a un défaut universel dans tous les pays du monde. Mais quand on ne voit pas les choses comme ça, on ne voit pas ça, parce que ça ne se voit pas. Mais l'homme souffre d'un défaut qu'il n'a jamais reconnu. Et plus il est spirituel, plus il est ésotérique, plus il est hors-culte, plus il est dans toute ce tripotage-là, plus il commence à découvrir quelque chose, plus il souffre d'orgueil spirituel. Et tous les gens, à tous les niveaux, même des initiés des sciences occultes, sont bourrés jusqu'au plafond d'orgueil spirituel, et ces gens-là, un jour ou l'autre, devront crever la ballonne. Parce qu'il n'y a aucune place dans ce contact avec l'universel pour de l'orgueil spirituel. Il n'y a aucune place. Ils vont faire crever la ballonne. Comment ils vont quand même prendre 15 ans, ils vont flopper la ballonne. Ça, c'est automatique, c'est absolu. Parce que ce soit de l'orgueil intellectuel, rationaliste, d'un scientifique, ou que ce soit de l'orgueil spirituel, d'un spiritueux, c'est la même chose. Ça vient tout de l'ego. Et le contact avec ces forces, automatiquement force la transmutation de l'énergie astrale en énergie mentale. Automatiquement. Alors, le corps de désir de l'ego, éventuellement, est transmuté, et cet orgueil spirituel doit disparaître. Et l'ego lui-même doit en souffrir. Mais on ne parle jamais de ça d'orgueil spirituel. On parle d'orgueil cartésien, des philosophes, des ci, des ça. Mais jamais t'entends parler d'un livre d'orgueil spirituel. Je vous en parle. C'est pourri. Puis plus les gens sont hauts dans l'ésotérisme, puis plus ils sont hauts, parce qu'ils se mettent tous des degrés, le premier, deuxième, troisième, quatrième, plus ils sont grands, là, et plus il y en a d'orgueil spirituel. Il n'y en a pas de degré. La conscience, c'est la conscience qui s'englobe tout le monde. Il y a du foin pour tout le monde. Premier, deuxième, es-tu deuxième degré, toi? Le degré. L'orgueil spirituel, ça fait, c'est le même orgueil que l'orgueil intellectuel, ça seulement, c'est, ça a une forme différente. Mais à mes yeux, c'est encore plus dangereux. Plus, beaucoup plus, j'ai beaucoup plus de plaisir vibratoirement à rencontrer un scientifique qui est cogné dans sa patente cartésienne qu'un grand spirituel qui souffre de spiritualitisme.
Passons d'une autre. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, croyez pas ce que je vous dis. Et d'une façon ou d'une autre, un jour, l'homme
de la sixième race sera en dehors du matérialisme et en dehors de la spiritualité, il sera dans la conscience pure. Et dans la conscience pure, il n'y a rien. Il y a seulement de la conscience pure.
En l'homme, des questions, des réponses.
Ça fait partie de l'ego. C'est normal. Puis je vous respecte, d'ailleurs, vous avez des questions, je vous les réponds, vos questions. Je ne vais jamais fâcher contre vos questions, parce que c'est normal. Mais tout ce que je fais, c'est que je vous dis, plus tard, vous comprendrez des réponses, des questions. Rendu à ce point-là, il n'y a plus. C'est tout, c'est tout le temps. Il n'y a rien à comprendre.
Bernard, au début, tu nous as dit, il faut perdre des choses pour acquérir d'autres choses. J'aimerais savoir ce que les gens de la cinquième race devront perdre.
Ils perdront la mémoire subjective, pour développer la mémoire objective et cosmique. Ils auront accès à leur cerveau éthérique.
En fait, concret, est-ce que ça veut dire que le type ne se souviendra plus combien d'argent manque?
Non, non. La perte de la mémoire varie avec chaque individu, parce que chaque individu a un rapport différent avec ses forces, il réagit différent avec ses forces.
Mais qu'est-ce que tu appelles la mémoire subjective?
La mémoire subjective, c'est la mémoire qui est sujet au rappel par la puissance volontaire subjective de l'ego.
Comme savoir combien il me reste d'argent dans mon compte de banque?
Ça peut être un exemple. Ça peut être... Je donnais l'exemple de mon corps quand je présentais ma femme à des invités, puis je disais, comment est-ce que ça s'appelle, donc? Il coupe ta mémoire, il t'accoupe ta mémoire. Puis là, l'ego est vide, il a le faux cul. Tu sais? D'accord. Il accepte pas ça.
Ta femme aussi.
Ça fait partie des voulues. L'ego se transmet, puis il va. Puis là, il dit, c'est pas important, c'est pas important, c'est pas important, c'est pas important. Puis il dit ça pendant 10 ans, mais au bout de 10 ans, c'est important. Là, tu comprends.
Mais si ta femme ne comprend pas.
Puis à ce moment-là, là, il te redonne ta mémoire. Tu l'as. T'en perds pas mémoire. C'est qu'eux autres établissent un contrôle. Tu perds pas la mémoire. C'est que tu perds la faculté subjective de l'illusion du contrôle de ta mémoire par ton propre vouloir. Alors, ils le font pendant un certain temps pour te montrer quelque chose en dehors de ton corps matériel. que t'es fait d'autre chose que l'oxygène puis de l'eau puis de la viande. Quand tu comprends bien ça, là, à ce moment-là, ils te redonnent ta mémoire, puis ils peuvent t'en donner encore plus grande mémoire, puis peuvent. Mais ils sont obligés d'enlever pour te donner. C'est comme l'éducation. Être rééduqueur, ils nous rééduquent. Mais ils ne nous rééduquent pas comme nous autres, on rééduque les hommes. Ils sont obligés de nous faire. Comment veux-tu qu'ils nous fassent sentir leur présence sans se servir de certains mécanismes? C'est évident qu'un homme qui a une belle intelligence, qui a une belle mémoire, s'il veut entrer en contact avec lui, automatiquement, le contact va changer ses vibrations. Alors là, il va s'apercevoir qu'il perd la mémoire. S'il communique avec lui, mais là, au moins, il va savoir qu'il y a quelque chose qui se passe. Et chaque individu, c'est différent. Mais on panique quand on perd la mémoire. Parce que c'est l'apanage de l'ego, la mémoire. Un ego qui a une très belle mémoire, une très belle intelligence, c'est la mécanique.
Outre perdre la mémoire, qu'est-ce que les gens de la cinquième race vont perdre?
Ils vont perdre la mémoire, ils vont perdre la capacité d'aller dans l'astral, ils vont perdre la faculté astrale.
Le monde de l'illusion.
Le monde de l'illusion.
De l'imaginaire.
De l'imaginaire. Ils vont voir dans l'invisible. Ils ne pourront plus faire d'efforts physiques matériels. Ils vont perdre de la force physique.
Est-ce que ça veut dire qu'il faut tuer l'imagination?
Non, on n'a rien à faire, nous autres. On n'a rien à faire, nous autres. Avant, on faisait quelque chose, mais là, on ne fait plus rien. Là, on se fait taper dessus. Là, on se fait faire. C'est nous autres. On est pétri par eux autres. C'est plus grave. Parce que quand on fait quelque chose, c'est l'ego qui rentre en jeu. Ça, c'est avant. Dans la sixième race, ce sont les forces qui transmettent l'homme. L'homme subit, développe des résistances, développe des corps. Et à un certain moment, lorsqu'il est capable de subir cette énergie à ce moment-là, ça rentre. L'homme n'a rien à faire. C'est ça qui est différent entre la cinquième race et la sixième race. C'est que dans la sixième race, le passage de l'homme dans l'invisible, la vision de l'homme dans l'invisible, tout sera donné par les forces et l'homme subira le choc de ses forces pour l'amener à ce pouvoir. Mais ce n'est pas par l'ego, parce que les forces ne donneront à l'ego aucun pouvoir. Parce que les forces au cours de la sixième race sont des forces de la lumière et les forces de la lumière sont totalement anti-maginois. Et ceux qui savent très bien que l'homme a une propensité énorme pour la magie noire, pour l'application du pouvoir sur l'homme. Et les hommes qui feront partie de cette race auront des pouvoirs, mais les pouvoirs seront diffusés à travers l'ego, ils ne seront pas sujets à la volonté subjective de l'ego. Bailey l'a très bien expliqué.
Est-ce que l'homme doit perdre sa subjectivité et devenir dans un grand collectif?
L'homme perdra sa subjectivité, mais atteindra un niveau universel de conscience qui sera universel.
Uniforme.
Universel. Il n'y a pas d'uniformité dans le cosmos. Il y a de l'universalité. Ce qui empêche l'universalité, c'est la division créée à cause de l'astralité de l'ego. Les désirs de l'ego, tout ce qui est.
Danger. Aux lumières rouges. Le capitalisme pousse l'ego à son paroxysme. Le socialisme élimine l'ego autant que possible. Qu'est-ce que Bernard peut penser?
Il n'y a pas de différence entre le socialisme et le capitalisme. Le capitalisme est une faculté de l'évolution planétaire qui tend à respecter un peu plus le principe de l'individualité. Alors, le capitalisme est une force sociale qui tend à respecter plus l'individualité, et le socialisme est une force qui tend à créer une agglomération sociale. Et les deux principes sont essentiels, mais les deux principes sont pourris. Mais les deux principes sont essentiels parce que, dans un cas, ils représentent l'individu, et dans un autre cas, la société. Mais comme les formes sont créées et maintenues en puissance par des êtres inconscients, le capitalisme est pourri, ainsi que le socialisme. Alors, dans la sixième race, il y aura à la fois une fusion de l'individualité avec la collectivité, mais ce sera à un niveau imposé à l'homme par les forces de la lumière et non contrôlé par l'ego des puissances matérielles de la planète. De sorte que l'homme sera respecté parce qu'il sera autonome dans son individualité, mais il sera universel dans sa collectivité parce qu'il aura une conscience totale des lois de la vie. Alors, vous aurez à ce moment-là l'expression idéaliste, si vous voulez, d'un capitalisme qui n'existera plus, avec l'expression idéaliste d'un socialisme qui n'existera plus, autrement dit, la fusion des deux principes de base qui demeurait dans le passé une manifestation de la philosophie de l'homme, de sa tendance naturelle mais inconsciente, pour éventuellement la réalisation parfaite dans la lumière.
On ne pourrait plus parler de gauche ni de droite.
Alors, parce que la dualité, la gauche et la droite. Le socialisme et le capitalisme se représentent sur notre planète dans le cadre de l'évolution. Ils représentent deux tendances essentielles, une, le développement de l'individualité, et l'autre, le développement de la société. Mais ils sont en conflit parce qu'ils sont basés sur des principes de violence, de puissance et d'intervention dans les affaires de l'esprit, soit de la société ou de l'individu.
Quelles seraient, d'après Bernard, les mutations indispensables à faire au niveau des dirigeants socio-politiques?
Vous me demandez une question qui nécessiterait une réponse en relation avec les événements de la cinquième race. Je ne m'intéresse pas à la cinquième race. Ce qui se produira au cours de la cinquième race ne m'intéresse pas. Alors, les mutations, les changements politiques mondiaux, Russie, Amérique, Chine, tout ça, sont des événements qui serviront pour faire chez l'homme un tableau de fond pour l'expérience du karma mondial. C'est seulement là que prend chez moi la valeur de l'expérience planétaire à ce niveau-là. Mais au niveau des individus, des gouvernements, des chefs de gouvernement, de toute la structure inconsciente de l'humanité, mes yeux ont dépassé ce stade de l'évolution.
Mais Bernard est quand même né à l'époque où des événements se préparent ou se font.
Oui, mais Bernard aussi sait comment vivre ces événements. Et comme je sais vivre ces événements, et comme je sais qu'il y aura des gens qui sauront vivre ces événements, la qualité éventuelle, historique, de ces événements en tant qu'expérience mondiale karmique est en deçà de la vision et de la potentialité de l'évolution future.
Il faut absolument passer par là.
L'homme passera par là.
Parce qu'il le faut.
L'homme passera par là. Attendez-vous pas du miracle. Parce que c'est justement là, c'est justement dans le feu que se fera le tri. C'est dans le feu que se fera le tri.
Est-ce que tout le monde a compris la question de madame? Non? Je vais la répéter. Est-ce que l'avènement de la sixième race est pour bientôt ou est-ce que aussi devra se produire des événements comme des effondrements?
La sixième race, elle a commencé, elle est en évolution, elle est en préparation, le germe est déjà établi. Tout se fait petit à petit, ça se fait. Il y a des gens qui évoluent. Et lorsque les événements auront catalysé l'esprit de l'homme à un point tel où cet esprit sera capable de soutenir toute forme de paroxysme à ce moment-là, vibratoirement, cet esprit pourra entrer dans notre dimension. Il n'y a aucune initiation, que ce soit sur un plan individuel, ou que ce soit sur un plan social, où les êtres, les unités en évolution ne sont pas sujettes à un test. Ce sont les lois de l'évolution. Il en a toujours été ainsi et il en sera toujours ainsi.
Un test dans la douleur.
Un test dans la capacité de résister à la douleur subjective. Un test dans la capacité de résister à l'illusion de la douleur subjective. Alors, si un homme est conscientisé, si un homme est conscient de la force, si vous parlez, les gens parlent de la foi, de la foi, de la foi. On en bave de la foi depuis des siècles. Mais qu'est-ce que c'est la foi? Personne ne le sait. Parce que la foi, elle existe pour l'homme quand on a de l'argent dans la poche et lorsqu'on n'a plus rien, on n'a plus de foi, on tombe en dépression. C'est de la merde. La foi doit être dépassée. L'homme doit avoir plus que la foi parce que la foi fait partie de la présentation de l'homme devant lui-même. La foi, c'est le rapport entre l'homme et l'infinité. C'est une dimension inconsciente de la philosophie spirituelle de l'homme. Lorsque l'homme sera arrivé à un autre niveau de conscience,
lorsque l'homme aura la conscience totale du rapport qui existe entre l'infinité et lui-même, à ce moment-là, il n'aura plus besoin de foi. Il sera dans l'énergie, dans la force. La foi l'aide à spiritualiser son être. Et c'est pour ça qu'elle est grande et qu'elle est bonne. Mais tout ce qui est grand et tout ce qui est bon, un jour, doit être transmuté pour devenir plus grand et plus bon. La foi, au départ, les gens les ont. Moi, je ne parle pas de foi. Le clergé parle de foi. La foi du voyage de l'âme, ce n'est pas une foi, c'est une précision de l'astralité du désir humain. Le voyage de l'âme, c'est une imitation de l'esprit de l'homme. Parce que le voyage de l'âme, l'homme, dans son voyage de l'âme, se sert du corps astral pour atteindre des niveaux, des tableaux de la spiritualité psychologique dont il a connu au niveau de l'acculturation de son pouvoir évolutionnaire. Mais, dans l'avenir, l'homme ne se servira plus de ce corps astral pour augmenter la sensibilité à l'énergie de la lumière et se servira de son esprit pur. À ce moment-là, ce qui est astral ne servira plus à l'homme parce que l'homme sera instantanément là où il devra être. Effectivement, c'est pour ça que j'ai toujours dit tous les systèmes, tous les aspects, toutes les étapes, toutes les marches sont essentielles. C'est pour ça que tout ce qu'on me présente depuis des années de temps, je dis toujours c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, tout est bon. Mais je dis aussi, tout a une limite. La limite, elle est toujours proportionnelle à ce que l'on peut par soi-même atteindre. La limite pour vous, c'est une chose, la limite pour un autre, c'est une autre chose. Pardon? Effectivement. Effectivement, parce que tout être a en lui le germe de sa puissance.
Oui, vous savez pourquoi ça a l'air douloureux? Parce que, malheureusement, lorsqu'on essaie d'expliquer quelque chose, on est obligé de se servir de mots. Et les mots engendrent automatiquement en soi une émotion. Et on est forcé, pour décrire un tableau, surtout un tableau qui se rapporte à une initiation ou à une transformation quelconque, à un changement interne de l'homme, on est obligé d'employer des termes qui, lorsque l'on réfléchit dessus, engendrent en soi une émotion. Et cette émotion souvent nous fait croire que le passage d'un plan à un autre, le passage d'une dimension d'expérience à une autre, est un passage de souffrance. Parler d'une chose telle qu'elle est et parler d'une chose telle qu'elle sera dans votre cas ou dans un autre cas, c'est deux choses différentes. Parce que lorsque l'on parle d'une chose telle qu'elle est, on en parle d'une façon absolument générale afin d'atteindre l'esprit de l'homme, pour qu'ils puissent comprendre que dans la transition, dans un passage quelconque, dans un changement vibratoire interne, il y a toujours une souffrance quelconque qui peut varier avec chaque individu. Mais du moment que j'emploie le terme souffrance, chaque individu va mesurer ce terme suivant la fidélité qu'il va apposer à la définition de ce terme. Mais je sais très bien qu'il y a énormément d'individus qui passent ces étapes de transmutation et qui ne souffrent pas. J'ai toujours dit que la patience était la clé à l'évolution vers ces plans-là, parce que la patience est une tension, puisque l'homme vit dans un temps psychologique anormal, la patience est une tension constante, surtout chez l'homme qui est sensible, parce que lui, naturellement, pour des raisons normales, il veut avancer, il veut comprendre, et eux, sur les autres plans qu'ils ne voient pas, font un travail. Eux connaissent son avenir, lui ne le connaît pas, et s'il connaissait l'avenir, si vous saviez que dans tant de temps vous seriez dans tel état, dans tant de temps vous comprendriez telle chose, à ce moment-là vous ne souffririez pas de patience, vous direz, bon, je vais attendre. Mais malheureusement, la situation n'est pas ainsi. Alors, automatiquement, on souffre de patience, et plus les gens sont sensibles, plus ils sont philosophiques, plus ils cherchent à comprendre, plus ils souffrent de patience. Et pour ça que je dis toujours, vous apprendrez au cours de cette révolution qui vient que la patience est l'instrument le plus puissant dont puissent se servir ces forces pour atteindre l'ego de l'âme.